En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
De quel islam parle-t-on lorsque l'on s'intéresse à ce pays complexe, le Pakistan ? Telle est la question développée par Michel Boivin, chargé de recherche au CNRS, dans la communication qu'il a donnée le lundi 24 septembre 2012 devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance. Sa communication était intitulée « L'islam dans le Pakistan d'aujourd'hui ». Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances, vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassit-Bruguière, qui présente en le résumant le parcours de Michel Boivin.
Nous reprenons donc aujourd'hui notre tour de la Terre. Le Pakistan n'est pas considéré comme un pays émergent, mais il figure parmi les 11 prochains pays qui devraient émerger, selon certains experts. Et en tout cas, c'est un pays important dans l'Asie d'aujourd'hui, notamment à cause de la place qui tient l'islam dans les croyances des populations. Ce pays de 180 millions d'habitants est la deuxième puissance islamique, si je puis dire. Enfin, pour le nombre des croyants musulmans, il ne vient que le premier étant l'Indonésie dont nous avons parlé avant l'été. Pour parler de l'islam au Pakistan, j'ai demandé à Monsieur Michel Boivin de bien vouloir accepter de faire une communication et je le remercie de l'avoir accepté et d'être venu malgré les tempêtes du TGV avec une ponctualité parfaite. Monsieur Boivin a été formé comme historien et comme islamologue à Lyon et à Paris 3, puis il est entré au CNRS et travaille au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, qui est un laboratoire commun entre l'École des hautes études en sciences sociales et le CNRS. Ses premiers travaux ont porté sur le discours réformateur du sultan Mohammed Shah Aga Khan, le père de l'Aga Khan actuel, puis il a suivi une approche d'anthropologie historique et il a étudié comment la caste des Qajars au Pakistan actuel est passée sous le contrôle des chiites ismaéliens dont l'Aga Khan était le chef, ces chiites ismaéliens exilés de Perse à la fin du XIXe siècle et réfugiés dans le Sindh. Puis, M. Boivin s'est concentré sur l'étude du soufisme dans la région du Sindh. Et il dirige actuellement la mission française du Sindh. Il effectue des enquêtes sur une ville sainte importante de cette région, Siwan, où se trouve un très important sanctuaire de Lal Shah Baz Qalandar. Et il a travaillé sur l'histoire du soufisme, étudié aussi dans la ville de Karachi, dans l'énorme métropole de Karachi, les problèmes entre les différentes communautés qui constituent cette métropole. Et une de ses dernières trouvailles, ou un de ses derniers intérêts, concerne l'apparition d'un culte à Benazir Bhutto, au Pakistan actuel. Monsieur Boivin est un homme de terrain. Il a passé de longues années et au Pakistan, il y était encore cet été, et dans des territoires très variés. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, un ouvrage sur le Pakistan paru en 1996, puis plusieurs ouvrages sur les Ismaéliens, des ouvrages sur le soufisme, dont certains sont parus à Oxford en 2010 et 2011, et également en France, le soufisme antinomien dans le sous-continent indien, paru aux éditions du Cerf cette année. Il a écrit de très nombreux articles concernant la géopolitique du Pakistan, notamment paru dans Hérodote en 2010, et d'autres articles sur l'islam, l'État et les oulémas au Pakistan, paru dans un recueil de l'EHSS publié en 2012, intitulé « Politique et religion en Asie du Sud ». Monsieur Boivin, je vous remercie encore d'être venu nous instruire et je vous donne la parole pour vous écouter sur l'islam dans le Pakistan actuel.
J'ai conservé vraiment l'intitulé qui m'avait été proposé, c'est-à-dire « L'islam dans le Pakistan d'aujourd'hui ». Donc ma communication va être principalement centrée sur l'islam. Bon, finalement, il y a une question centrale, qu'est-ce qu'on appelle islam, même si elle peut paraître un peu naïve, mais surtout qu'est-ce qu'on appelle islam dans le contexte de ce pays qu'est le Pakistan, parce que cette question a quand même une résonance particulière dans ce pays. Comme vous l'avez dit, bon, je suis historien contemporanéiste de formation. Donc, au cours de cette présentation, bon, je reviendrai dans un premier temps sur les conditions historiques de la création du Pakistan, puisque, comme vous le savez, ce pays a vu le jour en 1947, donc dans le processus de décolonisation qui a suivi le départ des Britanniques. Et, vous le savez également, ce qui a servi de principe fédérateur, j'y reviendrai, pour la création de ce pays, c'est justement quelque chose qu'on appelait dans les textes avant 1947 islam, mais en fait on faisait surtout référence aux gens qui pratiquent l'islam, c'est-à-dire aux musulmans. Donc le principe fédérateur à la base de la création de ce pays, c'était ce qui était appelé les musulmans, sans plus de précision. Par la suite, donc j'insisterai sur un aspect particulièrement méconnu de l'islam au Pakistan, c'est la diversité de l'islam, puisque l'islam, évidemment, comporte différentes obédiences, différentes écoles, différentes sectes, mais dans le sens anglais du mot. Et le Pakistan, donc, est un pays où il y a un grand nombre de différentes écoles. Bon, à commencer pour ce qui concerne le fameux clivage entre sunnites et chiites, mais il y a également d'autres interprétations de l'islam qui sont spécifiques, qui sont, si je peux dire, régionalistes. Donc, je donnerai quelques informations sur cette question. Dans la partie suivante, là, j'en viendrai à parler du rapport entre le politique et l'islam, puisqu'on connaît essentiellement le Pakistan sous cet angle, en tout cas sous l'angle des partis islamistes et des groupes islamistes qui se subdivisent eux-mêmes en différentes obédiences, bon, avec ceux qui recourent systématiquement à la violence, bon, et qu'en général, mais les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux, on dénomme djihadistes, donc ils font plus particulièrement référence au djihad. Et pour terminer, je dirais quelques mots aussi du rôle qu'a joué l'islam dans la production d'une culture, enfin de différentes cultures locales, régionales, et l'impact social, si je puis dire, de l'islam. Donc, en guise d'introduction, je voudrais seulement dire que ce qu'on appelle maintenant le Pakistan, depuis 1947, donc fait référence à la partie occidentale du sous-continent indien ou Asie du Sud, et qu'elle correspond, cette partie, dans une certaine mesure, à la vallée de l'Indus. En tout cas, ses principales provinces correspondent à la vallée de l'Indus. Et cette vallée de l'Indus, donc, a été le berceau d'une civilisation très ancienne, donc, qu'on appelle soit civilisation de l'Indus, soit civilisation harappéenne du nom d'un site Harappa, où se trouvent les vestiges d'une ville. Cette civilisation donc était ancienne puisqu'on a deux villes importantes, Mohenjo-Daro et Harappa, qui remonteraient à 2500 avant Jésus-Christ. Bon, je n'insisterai pas sur toutes les phases de l'histoire de la vallée de l'Indus, bon, sachant que cette vallée est placée à la rencontre du monde indien, du sous-continent indien et de l'Asie centrale, et que donc, depuis fort longtemps, il y a eu des invasions multiples, la plupart du temps, donc, qui provenaient du nord-ouest de la région. Pour ce qui nous concerne, bon, la vallée de l'Indus était également la partie du sous-continent indien qui était la plus proche du Moyen-Orient, du Proche-Orient, donc qui a vu se développer la civilisation et l'empire islamique. Et donc, c'est le sud de la vallée de l'Indus qui a été la première touchée, si je puis dire, par les conquêtes musulmanes. C'est entre 710 et 711 qu'un conquérant arabe, en fait, qui dirigeait une armée du calife Omayyade de Damas, donc s'est emparé du sud de la vallée de l'Indus, la région actuelle du Sindh au Pakistan. Et très vite, en fait, il va y avoir un État qui va être fondé, qui est un vassal du califat de Damas puis de Bagdad, dans cette région du Sindh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 9e siècle, cet État, justement, il va être dirigé par des chiites ismaéliens. Bon, entre-temps, au Moyen-Orient, les Ismaéliens ont fondé un califat rival de celui de Bagdad, au Caire en particulier. Enfin, ils se sont établis au Caire. Et donc, à partir de l'Égypte, ils sont allés dans le sous-continent indien. Ils ont fondé un État vassal dans cette région du Sindh. Donc, c'est pour dire que la présence des chiites en général et des ismaéliens plus particulièrement est ancienne dans cette région, dans le sous-continent indien et dans ce qui est actuellement le Pakistan. Bien, il n'est pas utile de passer en revue toutes les dynasties qui se sont succédées dans le sous-continent indien. Disons que le Pakistan, quand même, au cours de ces siècles, était un peu déchiré entre, d'une part, l'empire persan, que ce soit sous les Safavides, après sous les Indes, les Qadjars, et puis de l'autre côté, l'empire moghol, donc à partir du XVIe. Alors à certaines périodes, quand même relativement rares, c'était plutôt les Iraniens ou même les Afghans qui dominaient cette région, mais à d'autres, c'était les Moghols. Et puis il y a eu encore d'autres périodes où cette région de la vallée de l'Indus réussissait à tirer parti de la rivalité entre ces deux grands empires pour acquérir une certaine autonomie, voire une certaine indépendance. Maintenant, j'en arrive donc très rapidement à la période coloniale. Donc, les Britanniques, les Anglais, essentiellement, arrivent dans le sous-continent indien. En tout cas, ils dominent le nord du sous-continent indien à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et vous savez qu'ils sont basés, en fait, à l'autre extrémité du sous-continent indien, c'est-à-dire dans le Bengale et plus particulièrement à Calcutta. Et c'est seulement au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire presque un siècle plus tard, qui vont arriver dans la partie occidentale qui formera le Pakistan. En fait, ce sont les dernières conquêtes importantes des Britanniques, parce que en 1843, ils s'emparent justement du Sindh, qui était un émirat indépendant, et en 1847, ils s'emparent du royaume Sikh du Pendjab, donc qui est la partie nord de la vallée de l'Indus. Donc, à partir du milieu du 19e, les Britanniques colonise cette région. Cette région connaît peu ou prou la même évolution que le reste, en particulier pour les musulmans. Bon, il y a des mouvements de réforme au XIXe siècle qui, à l'origine, sont souvent des réactions face à la colonisation britannique. Il y a la naissance de ce qu'on appellera un nationalisme musulman dès la fin du XIXe siècle, mais dans l'Empire britannique des Indes, en général, pas particulièrement centré sur l'actuel Pakistan. Alors, l'idée du nationalisme musulman, d'où provient-elle? Eh bien, parce que les musulmans, les élites musulmanes, avaient été, surtout dans le nord de l'Inde, dépossédées par les Britanniques. Si vous regardez la composition des armées que les Britanniques vainquent au XVIIIe siècle, en particulier, ce sont essentiellement des souverains musulmans et l'empereur moghol lui-même. Il a fait partie des vaincus dans les grandes batailles qui ont opposé les Britanniques aux Indiens, en particulier au XVIIIe siècle. Donc l'élite musulmane s'estime dépossédée. Et elle estime également que les Britanniques ont une politique trop favorable aux hindous, qui sont bien entendu la très grande majorité de la population de l'Empire britannique des Indes. Donc certains penseurs musulmans de la fin du 19e commencent à émettre l'idée qu'il peut exister une nation musulmane en Inde. Bon, il faut bien se replacer dans le contexte de l'époque. Bien sûr, avec l'émergence des nationalismes en Europe orientale, balkanique et autres. Et il faut dire que ces penseurs musulmans qui parlent de nation, bon, c'est un terme qui est très complexe encore aujourd'hui, mais qui est surtout très vague. Et à ce sujet, les Indiens, d'autres Indiens, eux-mêmes, commencent à employer le terme de nation en anglais, surtout sous la forme adjectivale, hein, puisqu'en fait, c'est en 1885 qu'est fondé à Bombay le parti du Congrès national indien. Hein, c'est celui que va diriger Gandhi, Nehru, qui est toujours au pouvoir actuellement. Donc, dans l'intitulé de ce parti, il y a bien l'adjectif national, mais bon, quant à savoir exactement le contenu, la signification d'un mot, c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, donc, dans une certaine élite musulmane, parce que dès le départ, il ne faut pas croire que tous les musulmans se rallient à cette idée d'une éventuelle nation musulmane en Inde. Hein. D'ailleurs, le premier président du Congrès national indien était un musulman. Il y a eu beaucoup de musulmans qui ont également participé au Congrès. Mais, en tout cas, pour ce qui est de ces musulmans, très vite, ils vont demander aux Britanniques déjà une représentation séparée, hein, puisque les Britanniques octroyaient un pouvoir, enfin surtout régional, surtout à partir du début du XXe siècle aux élites indiennes. Et en 1905, une délégation de musulmans vient voir le vice-roi des Indes, donc pour lui demander véritablement, bon, des élections sont en préparation, qu'il y ait des élections séparées pour le musulman. Donc c'est vraiment l'origine et le développement de cette idée de nation musulmane. Mais pendant très longtemps, c'était le cas aussi du Congrès, mais plus encore pour ces musulmans nationalistes, c'est un phénomène qui concerne seulement une élite, c'est-à-dire en Inde, les musulmans indiens, soit ce sont des souverains, parce que vous savez qu'en Inde, bon, il y avait deux grandes catégories de territoires, ceux administrés directement par les Anglais et ceux où on avait laissé les souverains en place mais qui n'avaient pas vraiment de pouvoir, ce qu'on appelait les états princiers. Donc l'élite musulmane, on a des princes musulmans, on a aussi des grands marchands qui au début du XXe se sont déjà beaucoup enrichis grâce à la colonisation et qui sont donc en particulier de Bombay. Et on a aussi une nouvelle élite, disons, de classe moyenne, très souvent des gens qui ont été formés dans les écoles britanniques, ou en tout cas anglophones de l'Inde, et même parfois qui sont allés à Londres pour faire des études de droit. Il y a un certain nombre d'avocats parmi eux. En fait, c'est surtout après la Première Guerre mondiale que les musulmans s'organisent vraiment. Bon, juste avant, ils avaient fondé un parti. Alors, on hésite là aussi à parler véritablement de parti politique, hein, mais en tout cas, c'était un regroupement de ces élites musulmanes qui réclamaient, en réalité, un traitement égal pour les musulmans et les autres Indiens. Et pour eux, ce traitement ne pouvait être octroyé qu'avec des sortes de réservations, donc dans les différents postes qui étaient donnés aux élites indiennes, bon, dans des conseils ou à Delhi ou dans d'autres régions de l'Inde. Alors évidemment, cette élite musulmane donc va participer au combat nationaliste, bon, avec le parti du Congrès, hein, qui est donc très vite dirigé par Gandhi, en fait, quand il rentre d'Afrique du Sud en 1918. Bon, dans un premier temps, il y a des objectifs communs, mais très vite, il va y avoir des visions différentes entre donc ce parti musulman qu'on appelle la Ligue musulmane et le parti du Congrès. Les Britanniques vont un peu jouer, bien sûr, sur cette rivalité. Et en réalité, le nouveau chef de la Ligue musulmane, qui s'appelle Mohammed Ali Jinnah, qui est né d'ailleurs à Karachi, donc dans le Pakistan actuel, mais qui est d'une famille de riches marchands de l'État du Gujarat, qui se trouve actuellement en Inde. Donc, ce chef, lui-même, va un peu radicaliser, mais à la fin des années 20 et au début des années 30, la revendication nationale des musulmans. Il veut d'abord un traitement à égalité avec le parti du Congrès. Parce que si on regarde enfin les statistiques de la population de l'Inde à cette époque, les musulmans représentent environ 20% de la population totale. Bon, les hindous sont très largement majoritaires. Bon, il y a également des chrétiens et d'autres minorités. Mais il y a un poids démographique très différent entre les musulmans et les hindous. Donc, bon, il n'y a pas d'accord qui est trouvé entre Jinnah, le chef de la Ligue musulmane, et le parti du Congrès, et les relations s'enveniment. Bon, les Britanniques organisent différentes conférences pour essayer de trouver une solution, mais finalement, c'est vraiment très peu de temps avant le départ des Britanniques, bon, qui est d'ailleurs décidé un peu dans l'urgence. C'est vraiment très peu de temps avant que les musulmans, finalement, demandent, enfin les musulmans de la Ligue musulmane, demandent la création d'un État indépendant, totalement indépendant du reste de ce qui est encore l'Empire britannique des Indes. Et Jinnah, donc, est intransigeant. Et finalement, lorsque le dernier vice-roi des Indes accepte le départ des Britanniques, Lord Mountbatten, donc, il y a bien un nouvel État qui va voir le jour pour les musulmans. Mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que cet État, il est créé donc au nom d'une idée, enfin d'une religion, l'islam, sans tenir compte absolument des divisions au sein de l'islam. Donc, ça n'a pas été discuté, mais pour une raison très simple, c'est que les gens qui étaient à l'origine de la création de cet État n'étaient pas des spécialistes religieux. Ce n'étaient pas des oulémas, ce n'étaient pas des spécialistes de la religion musulmane. Jinnah lui-même était avocat. D'ailleurs, il ne s'est jamais exprimé qu'en anglais. Actuellement, encore au Pakistan, il y a un grand débat pour savoir s'il parlait couramment ourdou, qui était la langue nationale. J'ai assisté à des conférences où des gens ont apporté des extraits de discours de Jinnah en ourdou pour savoir s'il parlait correctement l'ourdou ou non. Enfin, je veux dire donc que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout un spécialiste de la religion. Donc, c'est dans ces conditions que le Pakistan est créé. Et ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que le principe qui est retenu, parce que finalement, de quoi devait être constitué le Pakistan ? Eh bien, d'après le dernier recensement britannique, c'était les territoires, donc les unités administratives de l'Empire, où les musulmans étaient majoritaires. Et le résultat, c'est qu'on a eu un pays, donc, qui s'est appelé Pakistan, qui était en deux parties. On avait donc cette vallée de l'Indus qu'on appelait Pakistan occidental, mais à l'autre bout, à 2000 kilomètres de territoire indien, on avait l'autre partie, qui était en fait une partie du Bengale, de la province du Bengale, et qu'on appelait Pakistan oriental. Donc, c'était une situation assez particulière. Et très rapidement, de toute façon, il y a une pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan, c'est le Cachemire, puisque le Cachemire avait une population à majorité musulmane, mais c'était un état princier et bon, c'est très compliqué de connaître exactement les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, mais en tout cas, le Maharaja, donc c'était un hindou, le chef, le prince du Cachemire, il a fait appel à l'armée indienne parce que, d'après lui, les Pakistanais avaient infiltré des troupes dans son état. Donc, très vite, il y a eu une première guerre au sujet du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan dès 1948. Si on compare l'évolution de l'Inde et du Pakistan, l'évolution politique, j'en arrive à la politique, donc il y a une très grande différence puisque l'Inde a été, depuis son origine, une démocratie. Bon, j'ai envie de rajouter à l'indienne, mais c'est une démocratie. Elle a eu une première constitution en 1950 très longue. Elle a toujours gardé la même. Le parti du Congrès a exercé le pouvoir, j'ai plus de chiffres en tête, mais depuis 1947, de façon quasi ininterrompue. Bon, il y a eu deux ou trois fois où il a perdu le pouvoir. Et alors, côté pakistanais, là, c'est vraiment une évolution totalement différente, puisque le fondateur Jinnah, bon, il était très malade, il est mort quelques mois après l'indépendance. C'est son bras droit qui lui a succédé, Liaquat Ali Khan, il a été assassiné. Ensuite, très vite, il y a eu une dictature militaire. Il y a eu à nouveau un épisode démocratique, il y a la chronologie, Donc, dans les années 70, lorsque Zulfikar Ali Bhutto a accédé au pouvoir, à nouveau coup d'État militaire en 77 et les premières mesures d'islamisation. Et puis après, alternance démocratique, donc avec Benazir Bhutto et Nawaz Sharif. À nouveau, un coup d'État militaire du général Musharraf en 1999, jusqu'à ce que Musharraf donc démissionne en 2008. Et là, à nouveau, retour à la démocratie. Alors, la situation du Pakistan est très complexe, mais pour ce qui concerne en tout cas son origine, parce que moi, je pense personnellement que une partie des raisons qui expliquent l'instabilité politique et autres du Pakistan, ce sont les conditions dans lesquelles il est né. Et bon, il faut vraiment relire tous les textes, les discours qui ont été prononcés juste avant la création du Pakistan, puisque les gens qui l'ont créé, donc cette élite, je vous l'ai dit, ce n'étaient pas des spécialistes religieux, et le moment où là, ils ont été au pied du mur, c'est-à-dire qu'il fallait créer un État, aucun n'avait idée de ce qu'était un État islamique. Et il y avait un grand nombre d'ambiguïtés, la première à savoir si c'était un État musulman islamique ou un État pour les musulmans. Et les responsables politiques sont allés demander conseil, cette fois à des oulémas, des spécialistes religieux, mais l'islam n'est pas monolithique. Donc, au Pakistan, il y a différentes écoles de l'islam et donc il n'y avait pas de réponse, évidemment, uniforme à cette question. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Constitution a un peu tardé. Bon, elle a été octroyée en 1956, la première Constitution du Pakistan. Bon, ensuite, il y en aura deux autres et actuellement, c'est toujours celle de 1973 qui régit le pays. Mais donc, il y avait une très grande hésitation au minimum, parce que la question centrale, c'était la suivante, c'était quelle doit être la place de l'islam et de quel islam dans ce pays, le Pakistan, qui a été créé pour les musulmans de l'Empire des Indes. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de réponse. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas une réponse, en tout cas, vu déjà la diversité des écoles de l'islam au Pakistan. Alors, justement, en ce qui concerne ces différentes écoles de l'islam, bon, la majorité des musulmans pakistanais sont sunnites. Alors, il n'y a pas de recensement qui comptabilise les différentes écoles de l'islam, puisque le dogme du Pakistan, c'est qu'il y a un islam, hein, il y a un prophète, il y a un islam, donc on ne va pas comptabiliser les sunnites, les chiites, les ismaéliens et les autres. Donc, on n'a pas de statistiques. Mais enfin, on estime que les sunnites représentent environ 70% du total, donc ce qui est évidemment une domination démographique. Mais pour le reste, bon, on a environ 20% de chiites, hein, eux-mêmes qui se subdivisent entre duodécimains, isnaashri, c'est-à-dire comme en Iran, et aussi ismaéliens, on en a déjà parlé. Alors, la démographie, c'est une chose, mais les chiites, ils sont, par exemple, très présents dans un certain nombre de domaines, ce qui leur donne, en fait, un poids économique, par exemple, mais également religieux, j'y reviendrai, qui est sans commune mesure avec leur poids démographique. Dans l'économie, bon, Karachi est encore le principal centre économique du Pakistan, et dans cette économie, donc, les familles chiites jouent un rôle non négligeable, mais également en relation justement avec le soufisme, donc avec une forme populaire de pratique où dans les sanctuaires soufis de la vallée de l'Indus, un très grand nombre, bon là il n'y a pas non plus de statistiques, mais en tout cas un très grand nombre sont chiites, les chefs de ces sanctuaires. Donc les chiites ont un poids considérable. Par ailleurs, il y a d'autres écoles de l'islam, donc spécifiques au Pakistan, comme bon, il y en a une qui s'appelle les Zikris, en particulier dans le Baloutchistan, où pour un musulman fondamentaliste, ces gens sont tout à fait des hérétiques, mais comme le sont les chiites aussi et les ismaéliens, puisqu'ils les accusent finalement de ne pas reconnaître la seule autorité spirituelle du prophète de l'islam. Par ailleurs, en dehors des musulmans, donc on trouve également au Pakistan des chrétiens, bon, qui ne sont pas nombreux, et des hindous, qui ne sont pas du tout nombreux, puisque donc sur 180 millions d'habitants, chaque groupe représente à peu près 3-4 millions d'habitants. Franchement, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup parcouru le Pakistan. Je reste convaincu que les statistiques officielles minimisent le nombre de ces minorités religieuses. C'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, là encore, bon, il y a des hindous qui sont assez puissants au niveau économique, en particulier à Karachi, donc, et dans le sud du pays. Parmi donc tous ces groupes, évidemment qu'il n'y a pas de consensus donc sur cette fameuse question de quel islam s'agit-il, et c'est apparu assez rapidement, donc cette dissension entre les musulmans qui composent le Pakistan, déjà depuis l'origine, quasiment depuis la création du Pakistan, il y avait une tendance, alors qui était issue bon, d'une école en Inde qui s'appelle Deoband, donc une tendance qu'on appelle Deobandi, où là c'était une interprétation fondamentaliste de l'islam, bon alors pour simplifier bien sûr, mais on applique le Coran à la lettre, là il y a différentes sensibilités je dirais, pour certains la constitution ça doit être le Coran, etc. Donc pour ces Deobandi, en fait à l'origine ils étaient contre la création du Pakistan, parce que pour eux, s'il y avait un État musulman, il devait y avoir la loi coranique, la charia. Sinon, c'était pas un État musulman. Et il y a un homme très important qui a une énorme influence, non seulement sur la région, mais dans le monde musulman entièrement. Il a été traduit dans toutes les langues, il s'appelle Maududi. Donc Maududi, c'était le chef de cette tendance avant 1947. Et puis finalement, en 1947, Maududi, qui avait fondé un parti qui s'appelait la Jamaat Islami, il a accepté l'idée du Pakistan, donc il a émigré de l'Inde au Pakistan, et très rapidement, il va organiser des actions violentes pour faire pression sur l'État, donc pour que soit instaurée la charia. Et les premières manifestations très violentes se produisent dès le début des années 50, donc en particulier dans le nord du pays, contre une fraction de musulmans qu'il ne considère pas comme musulmans. Voilà. Et Maududi va connaître son heure de gloire en 1977, puisque donc le président élu, Zulfikar Ali Bhutto, est renversé par un coup d'État de son chef d'État-major, le général Ziaul Haq, bon, qui d'ailleurs fera un simulacre de procès et Bhutto sera pendu. Je ne sais pas si certains ont lu les mémoires de sa fille Benazir, qui ont été traduits en français maintenant il y a plus de 20 ans, mais elle commence son livre, c'est sa dernière visite dans la cellule de son père la veille de son exécution. Bref, donc Bhutto est pendu et ce général Ziaul Haq, lui, il s'appuie, parce qu'évidemment il n'a pas vraiment de légitimité, mais il va s'appuyer sur Maududi et les fondamentalistes pakistanais. Bon, on verra très vite que cette alliance, c'est une alliance quand même qui est surtout commode pour lui, parce qu'il proclame que cette fois il va islamiser les lois du Pakistan, et l'islamisation ça veut toujours dire la charia, c'est toujours en fait l'instauration de la charia. Alors petite parenthèse, la charia c'est encore une autre question, parce que des charias il y en a des milliers différentes. Si on regarde depuis les origines de l'islam, déjà les chiites, ils n'ont pas la même que les sunnites, etc. Mais c'est un autre débat. Et à ce sujet, il y a un excellent article dans le dictionnaire du Coran qu'a dirigé Amir Moézi sur le mot charia. En tout cas, Ziaul Haq, lui, il est lui-même sunnite. Donc pour lui, la charia, c'est la charia sunnite. Et il prend en 1978 des actions concrètes. En fait, il fait voter des lois qu'on appelle hudud, qui prévoit une législation spéciale pour ce qu'on appelle des peines coraniques, c'est-à-dire qu'elles sont prévues dans le Coran. Alors c'est parce que dans le Coran, finalement, il n'y a quand même pas beaucoup d'éléments de cette sorte. Et donc, c'est évidemment, on coupe la main du voleur en particulier, flagellation pour la femme adultère, etc. Donc, ces lois sont officiellement adoptées à partir de 1978 au Pakistan. Et bon, cette fois, les fondamentalistes sont persuadés que c'est vraiment la première étape vers l'islamisation, donc vers l'instauration totale de la charia. Bon, puis finalement, Ziaul Haq, il s'aperçoit que les fondamentalistes, Maududi comme soutien, ça suffit pas vraiment. Alors, il s'en détourne. Bon, entre-temps, Maududi décède. Bon, je répète, c'est un des plus grands penseurs fondamentalistes de l'époque contemporaine du monde musulman, qui est connu dans la totalité du monde musulman. Donc, Ziaul Haq va passer à autre chose. Mais enfin, et ça, c'est vraiment, une fois encore, inhérent aux conditions de naissance du Pakistan, c'est cette tension vis-à-vis de l'islam, parce que ce pays a été fondé pour les musulmans, et donc il y a toujours une surenchère vis-à-vis de l'islam. Dès qu'un dirigeant est en mal de légitimité ou d'autres choses, il prend des mesures en faveur de l'islam. Et d'ailleurs, le prédécesseur de Ziaul Haq, Zulfikar Ali Bhutto, qui était officiellement socialiste, c'est lui qui a fait interdire l'alcool et les nightclubs au Pakistan, évidemment au nom de l'islam, et c'est lui qui a banni une communauté, les Ahmadiyyas. Enfin, il a fait voter une loi qui les déclarait non musulmans. Voilà, donc ça montre la complexité de la vie politique de ce pays, la surenchère constante en ce qui concerne l'islam. À l'époque de ce dictateur Ziaul Haq, là, il y a un tournant important en direction de l'islamisation du Pakistan avec ces lois qui sont votées. Alors, certaines n'ont jamais été appliquées. Et puis, Ziaul Haq aussi, il va sortir des oubliettes, si j'ose dire, une autre loi qui est la loi sur le blasphème. Alors, la loi sur le blasphème au Pakistan, il faut savoir que c'est un héritage britannique. C'était les Britanniques, quand ils dominaient le sous-continent indien, qui avaient instauré cette loi. Mais à l'origine, la loi sur le blasphème, enfin, cela dit, elle est toujours énoncée de cette manière au Pakistan, mais on a ajouté des éléments. Mais à l'origine, donc, elle punissait d'une amende quiconque insultait une religion ou profanait un lieu religieux. Alors lui, Zia, il fait ajouter des éléments, en particulier, bon, contre l'insulte au prophète, qui peut être puni de mort, et également la profanation du Coran, là, qui est puni d'emprisonnement à vie. Donc ça, c'est également dans les années 80, et cette loi sur les blasphèmes, bien sûr, est toujours en vigueur, et on l'a vu encore relativement récemment. Alors, je vais rester sur la loi sur le blasphème, parce que dans les dernières années, elle a véritablement cristalliser toutes les tensions, toute la complexité de ce pays, du Pakistan et de la société pakistanaise. Bon, auparavant, je dois quand même dire que si on regarde l'histoire factuelle, l'évolution, le renforcement de la violence au Pakistan, de la violence religieuse en particulier, 2001 est quand même un tournant. L'intervention des troupes américaines et de leurs alliés en Afghanistan ont véritablement produit une onde de choc sur le Pakistan pour des raisons différentes, mais a produit en tout cas au Pakistan même une radicalisation de certains groupes. Avant de revenir au blasphème, bon, quand on parle de la violence au Pakistan, et d'ailleurs due entre autres à l'instrumentalisation de la loi sur le blasphème, bon, il faut savoir que les premières victimes, ce sont des musulmans, hein. Bon, il y a par exemple la rivalité entre les groupes terroristes sunnites et chiites, parce que les groupes terroristes sunnites disent que les chiites ne sont pas musulmans et les groupes terroristes chiites disent que les sunnites ne sont pas musulmans. Bon, et puis il y a quand même une situation plus vulnérable des minorités religieuses, en particulier donc des chrétiens qui sont surtout présents dans le Pendjab, et des hindous qui sont surtout présents dans le Sindh. Donc, la loi sur le blasphème, en particulier lorsque le général Musharraf a accédé au pouvoir, à partir de 1999, on a essayé de l'accommoder, je dirais, en fait, un peu de l'assouplir, parce que la loi sur le blasphème, comment fonctionne-t-elle? C'est très simple. N'importe qui peut dénoncer quelqu'un et dire qu'il a blasphémé. Alors après, bon, il faut trouver un juge, mais donc de ces cours spéciales liées à la charia, qui accepte évidemment de prendre en dépôt, si je puis dire, cette plainte. Mais on est quand même très peu regardant. Il n'y a pas une véritable enquête de police qui est faite. Bon, sans parler de la corruption et autres. Donc, le général Moucharaf avait voulu rendre, en particulier en ce qui concernait la production de témoins, si on accusait quelqu'un de blasphème, il a voulu rendre les conditions plus strictes. Mais il a pris une mesure, mais qui est restée en fait sans conséquence. Mais c'est surtout après son départ. Hein, donc, je rappelle que Benazir Bhutto donc, a été assassiné le 27 décembre 2007. Et donc, Moucharaf a démissionné. Il y a eu des élections. C'est le mari de Benazir, qui était donc le chef du parti, le PPP, le Parti du Peuple Pakistanais, qui a été élu président. Et donc, c'est toujours le PPP qui gouverne, le PPP qui est officiellement un parti laïque. Une ministre de ce parti, qui s'appelle Sheri Rahman, a voulu déposer une motion devant l'Assemblée, là encore, pour essayer de revenir sur la loi sur le blasphème. Donc, et c'est ce qui a mis le feu aux poudres, sans mauvais jeu de mots. Là, bon, les fondamentalistes de tout poil, qu'ils soient terroristes ou non, qu'ils recourent à la violence ou non, parce qu'il y a des partis fondamentalistes officiels qui participent aux élections. Donc, en tout cas, se sont mobilisés. Et puis, il se trouve qu'à la même époque, les médias internationaux avaient aussi beaucoup parlé de l'affaire, justement, d'une chrétienne, Asia Bibi, qui était accusée elle-même d'avoir blasphémé. Donc voilà, les fondamentalistes se sont mobilisés, se sont déchaînés. Bon, quand il y a des manifestations organisées par les fondamentalistes au Pakistan, donc il y a toujours quelques dizaines de morts. Bon, on l'a vu encore très récemment. Mais ce n'était pas tout. Bon, alors évidemment que la ministre a très vite retiré le projet de loi. Le PPP l'a lâché, c'est-à-dire il a dit qu'elle avait déposé ce projet en son nom propre, pas du tout au nom du parti. Mais entre-temps, bon, il y a quand même le gouverneur de la province du Pendjab. Le Pendjab, c'est la moitié du pays au niveau démographique, donc c'est une très grosse province. Donc, ce gouverneur est allé rendre visite à Asia Bibi. Il a été assassiné quelques jours plus tard. Ça, c'était en janvier de l'année dernière, 2011. Et deux mois après, le ministre des minorités religieuses, qui était un chrétien, il a publiquement dénoncé la loi sur le blasphème, enfin, dans des termes modérés, c'est-à-dire qu'il a dit « personne ne parlait de la supprimer ». Il disait « qu'il fallait l'aménager, il a été également assassiné. Donc, ça donne une idée de ce que représente cette loi, en tout cas de ces tensions énormes et de la pression que font peser les fondamentalistes sur le Pakistan. Je dis juste un mot encore. Il y a un autre aspect du Pakistan qu'il faut souligner, c'est les contrastes vertigineux. Et là, je parle toujours en rapport avec l'islam. Puisque, comme vous l'avez dit, je dirige une mission dans le sud-est du pays et donc en relation avec le soufisme. Et donc, c'est un centre de pèlerinage soufi dans le sud de la vallée de l'Indus. Et ce pèlerinage est ouvert à tout le monde. Et si vous voulez être initié au soufisme, donc par un maître, il n'y a absolument aucune condition d'appartenance religieuse. Et il y a même des hindous qui eux-mêmes pratiquent les cérémonies dans ce centre, etc. Donc là, ce sont des centres, généralement liés au soufisme, qui sont très ouverts, très tolérants. Et il y a cette cohabitation, si on peut dire, entre ces extrémistes et puis d'un autre côté, ces gens qui sont liés au soufisme. Alors, bien évidemment, le soufisme est quand même largement associé au culte des saints dans l'islam, hein, des soufis, donc certains qui ont vécu au Moyen-Âge et qui sont vénérés. Le centre de pèlerinage, c'est donc leur tombe, leur tombeau. Depuis peu, maintenant, ça doit faire 2 ou 3 ans, les terroristes, évidemment, s'en prennent à ces centres parce que pour un terroriste musulman, donc Vous connaissez la Shahada, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète, donc il ne doit pas y avoir d'autres intermédiaires. Donc pour eux, évidemment, le culte des saints soufis, c'est aussi, c'est pas hérétique, c'est pire, c'est kafir, c'est-à-dire ce n'est pas musulman. Donc il y a eu également des attentats contre des centres soufis. Jusqu'à maintenant, dans les grandes villes, il y en a eu un à Karachi, un à Lahore, un à Multan, à Islamabad. Mais pour moi, et là c'est, je parle d'après les travaux que je conduis avec le Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, cette tolérance, cette interprétation de l'islam reste quand même très ancrée dans la population. Alors peut-être qu'il y a un clivage entre population urbaine, population rurale, mais le Pakistan reste encore très rural. Peut-être qu'il y a un autre clivage en ce qui concerne différentes provinces, hein, parce qu'on a d'un côté le bloc Punjab-Sindh, où là même les langues, ce sont des langues indiennes qui sont aussi parlées en Inde, alors que les deux grandes provinces, bon, il y en a une qu'on appelait la province frontière du Nord-Ouest, et maintenant qu'on appelle Khyber Pakhtunkhwa, vous savez que c'est la même population qu'en Afghanistan. Et puis la dernière grande province au sud, le Baloutchistan, là, il y a une partie du Baloutchistan qui est aussi en Iran, donc ça regarde plus de ce côté-là. Donc quand on parcourt en tout cas les zones rurales de ces régions, on est vraiment frappé par cette pratique d'un islam très ouvert et très tolérant, donc et qui est vraiment l'opposé absolu de ces extrémistes dont les médias occidentaux parlent évidemment, et c'est la seule représentation qu'ils nous communiquent du Pakistan.
Vous venez d'entendre Michel Boivin. Le texte de sa communication sera disponible sur le site de l'Académie www.asmp.fr. Toutes les communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bassit-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel » sont enregistrées par Canal Académie, disponibles à l'écoute et au téléchargement en libre accès permanent.